La première dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, les cinq premiers versets. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Voilà pour cette première lecture. La seconde, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, sont les fameuses noces de Cana. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aussi aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Une mesure étant l'équivalent de 40 litres environ. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ta parole est source de vérité, donne-nous d'y discerner ta vérité et de savoir nous en nourrir. Mes amis, l'Évangile doit toujours, toujours nous surprendre. Et pour le coup, il nous surprend. Pourquoi donc nous avoir raconté ce mariage où toutes les choses vont de travers et où l'auteur ne nous dit même pas qui se marie? On ne nous dit pas qui sont les amis qui entourent les mariés invisibles qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et en fait, si on y pense, on ne voit pas vraiment pourquoi on nous a raconté cette histoire pour commencer l'évangile de Jean. Et pour autant, l'histoire de Jésus qui change l'eau en vin est très connue, et elle est sans doute même, c'est un des signes les plus connus dans le monde. Elle est toujours reçue de manière très sympathique par tout le monde. Alors il va falloir nous être surpris, enfin, il va falloir trouver de la surprise encore dans la lecture de cette histoire. Elle est toujours vécue de manière sympathique, pas forcément d'ailleurs des gens d'église, mais aussi de ceux qui fréquentent les bistrots. Il y a quelque chose là qui se joue dans cette histoire qui fait qu'elle s'est répandue et qu'elle est très connue et qu'elle a traversé les siècles, même en dehors de l'église. Mais voilà, parce que autant ce texte est bien connu et tout le monde en a entendu parler, tout le monde le connaît bien, mais on passe souvent à côté de son sens et on va voir pourquoi. Et il y a tant de questions qui se posent à partir de ce texte pour nous, lecteurs, 2000 ans après. Alors les jeunes gens qui préparent leur mariage pourraient être un peu déçus parce qu'ils ne trouveraient là aucune indication pour préparer le leur, C'est bien un mariage qui nous est raconté ici, mais voilà, on ne nous dit rien de la cérémonie. On dit que le mariage, c'est un moment où deux familles se réunissent. Là, on ne sait absolument rien de ces familles. On ne les rencontre pas. Voilà, on dit tellement de choses sur les mariages et Jésus n'en dit rien. En fait, la tradition, une tradition qui est assez proche de la superstition, voudrait que, évidemment, et ça perdurait jusqu'à notre siècle, que tout conflit soit évité ce jour-là, lors de telles manifestations. Ce qui est un peu normal, tout le monde est prié d'être joyeux, ou de faire comme si. Et si cette paix et cette joie sont de rigueur, et au centre de la fête, c'est normal parce que le roi, la reine de ce jour-là, ce sont les mariés eux-mêmes. Et aucune ombre ne doit marquer ce jour pour eux. Et ce serait mauvais signe pour eux, pour leur avenir, pour le couple lui-même, etc. Donc, il ne fallait absolument pas que rien n'arrive ce jour-là et que tout soit parfait. Et ce jour-là, les mariés président la table, alors que d'habitude, ce sont plutôt les anciens. Et si les jeunes prennent le pas sur les plus vieux, c'est bien parce qu'ils leur laissent la place, ils représentent tout l'avenir. Cette jeunesse-là, c'est vraiment toute cette espérance qui s'ouvre devant eux et qui appelle vers l'avant. Et justement, comme le mariage se place habituellement à l'avant, au départ de la vie d'un couple, c'est peut-être tout à fait normal finalement que cette histoire de mariage se trouve au début de l'évangile de Jean, et ce qui pousse nos regards vers l'avant, vers l'espérance qu'il provoque. Eh bien, mes amis, l'évangile de ce jour nous présente un mariage où apparemment les règles que je viens un peu d'édicter ne sont pourtant pas respectées. Il s'agit d'un mariage où les mariés sont absents, l'ordonnancement de la fête est mal fait apparemment, puisque on est tombé en panne d'essentiel. Et les personnages de l'évangile que l'on retrouve ici ne sont pas vraiment dans leur rôle, ils ne sont pas vraiment à leur place. Marie, qui est la première nommée, prend le pas sur Jésus et se mêle un peu de ce qui ne la regarde pas. D'ailleurs, Marie, si elle n'est pas là dans son rôle de mère, alors dans quel rôle est-ce qu'elle est vraiment? Parce que c'est sur son initiative quand même que le miracle se fait. Mais ce miracle, avait-il vraiment raison d'être? Parce que si on y regarde de près, Jésus le fait un peu caché, comme ça, en catimini, derrière des rideaux, peut-être un peu comme s'il avait honte de donner à boire encore à des gens qui étaient déjà ivres, je ne sais pas. Mais ça se fait un peu de manière cachée, il n'y a rien de très glorieux là-dedans. Très peu de témoins à cette histoire. Et même les gens responsables du repas, le marié lui-même qui fait là une brève apparition, une furtive apparition, nous dit le texte, n'en sait rien, et personne n'en sait rien. Ils n'en savent rien. Et les choses, alors qui n'étaient pas conformes aux usages, entrent dans l'ordre, discrètement, sans même qu'on sache qu'il y avait eu vraiment du désordre quelque part. Et ça, c'est très étonnant. Il y avait donc un malaise et personne ne le savait. Et puis le passage se termine sur la réflexion de l'ordonnateur du repas au marié. Tu as gardé le meilleur pour la fin, formidable, et sur une remarque sur la foi des disciples. Mais on a pourtant l'impression, je ne sais pas si ça vous fait ça quand on lit le texte comme ça, d'un texte qui n'est pas fini, une histoire qui n'est pas terminée. Enfin, je ne sais pas, on aurait bien voulu savoir, par exemple, la réaction du marié. Tu as gardé le meilleur pour la fin, le meilleur vin pour la fin, alors que le marié n'en savait rien, ça m'aurait amusé de savoir comment il se serait sorti de ça et ce qu'il aurait répondu. Quelle était la réaction des serviteurs qui ont été témoins du signe? Que deviennent-ils? Quelle est la réaction des convives qui sont là, de l'ordonnateur du repas et des mariés eux-mêmes? On ne sait rien de tout ça. Mais voilà, compte tenu de toutes ces petites anomalies, enfin de ces questions en fait que nous pose le texte, je voudrais vous entraîner à lire trois pistes de réflexion qu'on peut retenir et vous cueillerez au passage, voilà, celles qui vous parlent. Déjà, pour la première fois, j'ai prêché sûrement de nombreuses fois sur ce texte de Cana, j'ai dû faire des études bibliques même là-dessus, c'est très certain. Eh bien, je ne m'étais jamais rendu compte d'une chose qui m'a... Alors, aujourd'hui, là, maintenant, je vais le dire, ça me paraît une évidence et j'ai presque honte de vous dire ça parce que ça me paraît d'une telle évidence que je regrette d'être passé à côté pendant toutes ces années. Mais il s'agit de l'action discrète de Dieu dans nos vies. Ce Dieu qui ôte de nos vies des problèmes ou des complications à venir en amont, justement pour ne pas qu'elles arrivent. Ici, le marié a évité la catastrophe et il n'en sait absolument rien. Combien de fois ça doit nous arriver au cours d'une vie, chacun, chacune, personnellement, d'être dans ce genre de situation? Des catastrophes qui étaient annoncées et qui ne se produisent pas parce que quelque chose s'est passé en amont ou à côté de nous et nous n'en savions rien. En général, vous savez, on remercie Dieu pour tout ce qui va bien. On appelle ça la louange. Et c'est très bien, il faut continuer et c'est parfait. Mais on le remercie beaucoup moins pour toutes ces choses, ces horreurs qui auraient pu nous arriver et qui ne sont jamais arrivées parce qu'elles ont été réduites, elles ont été résolues en amont. Et c'est quelque chose peut-être qui pourrait rentrer dans nos prières et nos réflexions parce que c'est quelque chose d'assez profond, moi je trouve. Et c'est peut-être là justement ce miracle permanent qui se renouvelle dans nos vies que nous lisons dans cet épisode de Cana. C'était pour une première piste. Une seconde manière de lire cette histoire, on en ferait là une lecture plutôt symbolique, en rappelant qu'avec les pères de l'Église, que si on réalise qu'on est au début de l'Évangile, il n'est pas impossible de penser que dans leur esprit, ce mariage pourrait bien être celui de l'Église avec le Christ. Pourtant, on le sait, depuis l'origine des temps, le couple formé par Dieu et l'homme ne marche pas très bien. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, justement, nous raconte la relation orageuse entre un Dieu qui s'offre comme époux à l'humanité et Israël qui est présenté comme son épouse. Il y a même cet épisode dans Osée où Dieu demande au prophète de marquer ça dans sa chair, d'épouser une prostituée. Hein, voilà, telle est la promesse de Dieu, tel est son peuple. Il y a toujours eu des problèmes. Et on remarque aussi que Jésus prend finalement ici subrepticement le rôle de l'époux dans cette histoire. Alors serait-il symboliquement le futur époux du peuple de Dieu? Est-ce pour cela qu'il est si discret? Et puis, le récit de ce mariage commence par l'expression, vous l'avez entendu, 3 jours après. 3 jours après quoi? Le 3e jour, on le sait, c'est toujours en relation, en principe, avec la résurrection, et donc avec tout l'élan et toute la dynamique que dégage la résurrection. Et donc ce texte est peut-être à lire dans ce contexte aussi de résurrection. Rappelez-vous qu'il a été écrit bien après, hein, de toute façon. Bref, cette épouse qui n'apparaît pas dans notre texte, est-ce que ce ne serait pas tout simplement l'Église qui n'apparaît pas parce qu'elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore là. Au moment où ces lignes sont rédigées, même, il n'y a pas d'Église. Il y a quelques juifs messianiques, des juifs qui comprennent que Jésus est le Messie, mais certainement pas d'Église telle que nous la comprenons aujourd'hui. Très brièvement, enfin, une troisième manière peut-être de comprendre ce texte, parce que bien sûr, il ne peut pas y avoir de mariage sans alliance. Et c'est là une autre manière de saisir l'intention de l'auteur en nous rapportant cette histoire de noces et d'eau transformée en vin. Alors vous le savez peut-être, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'institution de la Sainte-Seine. Hein, par rapport aux trois synoptiques, on n'a pas Jésus qui dit, voilà, le pain, le vin, souvenez-vous de tout ça, etc. On n'a pas d'épisode comme ça. Et pour le coup, certains commentateurs ont voulu voir ici le vin qui accompagne le pain, qu'on trouve au chapitre 6 dans la multiplication des pains, Et voilà, on a les deux éléments, on est rassuré, on est tranquille. Mais ça ne nous dit pas pourquoi Jean rapporte ce texte, ce signe. Signe de quoi ? Alors revenons à l'alliance. Vous savez que ce mot alliance, c'est celui que nous traduisons improprement en testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est ce terme-là. Et au passage, d'ailleurs, Jean, dans ce passage de Jean qui rapporte Cana, est peut-être justement là la réponse à toutes ces questions de ces premiers juifs messianiques. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'alliance, de la première alliance ? Qu'est-ce qu'on doit faire de la loi ? Qu'est-ce qu'on doit faire des lois de la cache-route ? Est-ce qu'on doit continuer à circoncire nos enfants ? Est-ce qu'on doit continuer le Shabbat, ce même jour ? Enfin, toutes ces questions qui se sont posées là, il semblerait que, si on y regarde de près, que, voilà, ce texte est en train de répondre à ça. Est-ce qu'il doit y avoir une rupture, finalement, entre la loi, la première alliance, et la grâce de la nouvelle ? La réponse, donc, se trouve peut-être dans les détails. Vous avez lu, vous l'avez entendu, les six jarres que les serviteurs présentent à Jésus sont des jarres, précise le texte, qui sont destinées à la purification des Juifs. C'était des jarres assez donc impressionnants, entre 50 et 100 litres chacun. Et on voit que Jésus, qui aurait pu créer ce vin ex nihilo, ne le fait pas. Il demande d'abord à ce que ces jarres soient remplies de l'eau de la première alliance. Et là se fait la transformation. Donc on est dans cette eau destinée au rituel, etc., et qui représente la loi, et cette eau devient le vin de la grâce. Et en fait, c'est une réponse pour dire qu'il n'y a pas de rupture entre la première économie du salut, qui était celle de la loi, et celle de la grâce. Il ne doit pas y avoir on ne doit pas abandonner comme ça la première alliance, mais il doit y avoir une continuité. Et ça, c'était une réponse, en tout cas, à mon avis, de Jean, à ces premières questions qui devaient se poser, et qui étaient très très fortes et très importantes à ces premières communautés. Et si Jean nous présente sept miracles, c'est son choix, hein, il ne nous présente que sept miracles de Jésus dans son évangile, il n'appelle jamais ces miracles miracles, mais il les appelle des signes, parce qu'il ne s'agit pour lui que de signes qui nous parlent de vérité sur Jésus et sur le royaume. Et peut-être alors que le signe discret que Jean cherche à énoncer en nous racontant cette histoire, le message qu'il veut faire passer, c'est sans doute qu'il ne faut pas craindre le changement. Et que ce passage d'une économie de la foi à une autre, donc de la loi à la grâce, ne doit pas se faire dans la rupture, mais dans l'évolution, dans la continuité. Le vin produit, on l'a entendu, n'est pas surajouté à l'eau, il est l'eau devenue du vin. De même, le Nouveau Testament ne supplante pas ce qu'on appelle, alors improprement aussi, l'Ancien Testament. Il est, de par la parole de Jésus, l'ancienne alliance, la première alliance, devenue nouvelle. Donc, comprenons bien que même si elles sont différentes et singulières, les deux alliances, c'est la même alliance. Il n'y en a qu'une. Et cette alliance, elle trouve juste son accomplissement dans le Christ qui sans cesse annonce cette nouvelle alliance de la grâce, mais en se ressourçant en permanence dans l'expérience d'Israël. Et c'est comme ça que nous est annoncé le salut en Christ. Alors, de la même manière, en nous, nous sommes tous forgés d'un héritage d'idées, de culture, de religion, de pensée, d'éducation, de point de vue, d'instruction, de préjugés, et c'est très bien, c'est ce qui nous fait, et nous sommes faits comme ça. Mais pour avancer sereinement, il nous faut savoir, un peu comme Abraham la semaine dernière, prendre une certaine distance avec tout ça, tout cet héritage reçu, de manière à pouvoir marcher libre sur notre chemin, parce que ce chemin nous est tout à fait personnel, il est singulier, il est unique, donc on ne peut pas trop s'attacher à celui des autres, celui qui a été reçu par les autres. Et c'est sans doute que pour être acteur de ces changements qui sont là devant nous et qui nous appellent, le mieux c'est encore d'être dans cette dynamique des serviteurs de notre histoire, dans cette attitude-là, à l'écoute de ce qu'il peut nous dire pour nous aider dans nos changements, et aussi, surtout, à écouter le conseil de Marie, je ne sais pas si vous l'avez entendu au passage, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Une fois qu'on a entendu ce que le Christ a à nous dire, il y a ce « Faites tout ce qu'il vous dira ». Là encore, une invitation à l'espérance. Si Dieu ne fait pas tout pour notre bonheur, mais si nous le cherchons de tout notre cœur, alors il nous invite à l'écouter et à faire tout ce qu'il nous dira. Ainsi, mes amis, sommes-nous invités, dès l'ouverture de l'Évangile, à nous laisser abreuver de nouveauté et d'espérance par Jésus, qui veut rester petit, discret, au cœur de la foule des hommes, pour que leur espérance se colore de liberté, d'audace, de foi.